Le dossier M, livre 1 de Grégoire Bouillet, lu par Laurent Poitrenaud, enregistré en public à la Maison de la Poésie le 10 février 2018.
Quelques mots sur le dossier M, au cas où le lire ne suffirait pas. Donc, 1. Le dossier M est dédié à qui veut bien. Tant pis pour les autres. 3. Pour le dire autrement, cela manque de joie, cela manque de liberté, cela manque d'audace, cela manque de primso, cela manque d'enthousiasme, cela manque de conscience de soi et des autres. Le dossier M entend combler ses manques, c'est son côté prétentieux. 5. À en croire de récents travaux en biologie, bonheur et plaisir sont incompatibles. Voilà qui n'arrange pas nos affaires et en tous les cas pas les miennes. Même si nos hormones ne font pas tout et qu'on n'est pas forcé de les croire, mais c'est un fait, nos neurones ne peuvent recevoir qu'un seul neurotransmetteur à la fois. Et ou bien c'est la sérotonine, la molécule du bonheur, et tant pis pour la dopamine, tant pis pour le plaisir, ou bien c'est le contraire. Ok. Si on me le demande, mais on ne me demande jamais rien, je peux dire que le livre 1 est sous sérotonine, tandis que le livre 2 est sous dopamine. 7. Petite consigne pour moi-même. Faire un livre hallucinant, car tout hallucine. Un livre dingue, car il t'est arrivé des trucs qui t'ont rendu dingue. Un livre qui ne se refuse de rien, puisque tout nous est refusé ici-bas. Un livre qui n'en finit pas, car tu n'es pas fini. Un livre rigolo, car tu veux rire encore. Un livre qui jette un pavé dans la mare, un vrai pavé, pas un petit caillou. Un livre qui tient debout tout seul, qui gambille et polka. Un livre excitant, un livre auquel on ne peut pas échapper. Ou alors il faut le rejeter en bloc. Un livre persuadé qu'il va changer le monde. Et ce ne sera évidemment pas le cas, mais y croire quand même. De toute façon, faire à ton idée et t'y tenir, ne pas t'occuper du reste, ce sera comme ce sera et comme cela doit l'être. 15. Au commencement du dossier M, il y a certaines phrases lues ici et là et me servant de boussole et deux points, ouvrez les guillemets. Nous sommes tissés de l'étoffe dont sont faits les rêves, disait Shakespeare. Ah, mais je ne veux pas faire partie du rêve de quelqu'un d'autre, disait Alice au Pays des Merveilles. Il y a plus d'idoles que de réalité dans ce monde, disait Nietzsche. « Je suis de la classe moyenne, cela ne signifie pas que je suis quelqu'un d'ordinaire », disait Charlie Oakley dans « L'ombre d'un doute » d'Alfred Hitchcock. « Ce qui est réellement vécu s'éloigne dans une représentation », disait Guy Debord. « Cadichon est devenu fou », disait Paul dans « Les mémoires d'un âne ». Tant qu'un écrivain dit « il » au lieu de dire « je », cela va encore, il peut réciter son histoire comme une leçon apprise. Mais dès qu'il s'avoue que ce « il » est lui-même, cela le transperce littéralement et il est épouvanté, disait Kafka. « Suis-je assez clair ?» 18. Si, après avoir travaillé 8 heures pour gagner un salaire que je peux dire convenable, si, après m'être occupé de ma fille, et si, après avoir consacré un temps non mesurable à ma vie privée, j'ai encore envie de m'asseoir à ma table et, chaque jour de la semaine, de me mettre à écrire dans la nuit pendant des 3 ou 4 heures d'affilée, cela doit vouloir dire quelque chose. Cela exprime une nécessité. Je n'ai pas d'autre alibi au dossier M. 20. Parler de la réalité en tant qu'elle dépasse la fiction. Parler de ce qui nous arrive pour de vrai et qui nous laisse tantôt ravis, tantôt sur le flanc et sur la paille, mais dans tous les cas éberlués. Il s'agit de rendre compte de l'imagination de la réalité, laquelle est infiniment supérieure à la nôtre, car la réalité est la somme de toutes les imaginations qui la composent, augmentée de la sienne propre. Quand on pense que le grand Virgile est mort parce qu'un aigle, passant au-dessus de lui, laissa tomber la tortue qu'il venait de capturer et la tortue tomba sur la tête du grand Virgile, le tuant net, on ne peut que s'incliner devant l'imagination de la réalité. 23. Nous croyons parler, mais c'est surtout le monde qui parle à travers nous. Écrire, c'est traverser tout le faux dont on est soi-même tissé. Assez de confondre notre vie intérieure avec la vie sociale que nous avons intériorisée. Hashtag rien au fil de la plume. 25. Mon premier livre, Rapport sur moi, c'était pour dire bonjour. Le deuxième, c'est pour dire au revoir.
Niveau 4. Comment dit-on je t'aime? Je ne sais pas pour les autres. Se souviennent-ils le jour, la minute, la seconde, la fois où ils ont dit je t'aime? Comment était-ce? Réussi ou avec le sentiment de n'avoir rien dit tellement ces mots ont trempé dans d'innombrables combines et on en a une conscience claire et affreuse au moment de dire véritablement « je t'aime ». Précisément à ce moment-là. Ce pourquoi on peut refuser de dire « je t'aime », le refuser absolument, par pure honnêteté, parce qu'il s'agit de mots sacrés. Ou alors, s'y risquant malgré tout, en mettant tout son amour dans l'intonation de sa voix et dans l'intensité de son regard, dans l'espoir de dissimuler le faux du langage, il faudrait des mots neufs, il faudrait refonder le langage pour que, disant « je t'aime », on dise « je t'aime » et pas autre chose. Pour que, disant « je t'aime », l'autre n'entende pas autre chose qui, en sous-main, n'a rien à voir avec l'amour, comme certains disent « je t'aime » et cela signifie « sexe ». D'autres disent « je t'aime » parce qu'ils en ont plein la bouche de dire « je t'aime » et peu importe si l'autre s'y laisse prendre. Sans parler de ceux qui disent « je t'aime » pour couper court et donner à l'autre ces mots suprêmes qui ne sera jamais là d'entendre et qu'on n'en parle plus. « On mange quoi ce soir? Il y a quoi à la télé ?» Ceux-là ne comptent pas. Ceux-là font de la politique. Cela donne à l'autre sa pitance d'amour. Je ne parle pas non plus de ceux qui réclament à tout bout de champ qu'on les aime, car cela exige d'être aimé avant que d'aimer, toi d'abord et moi ensuite, et ceux-là sont des épiciers. Non. Je parle de ceux qui, au moment où ils l'éprouvent, et parce qu'ils l'éprouvent, tentent de dire ce qu'ils ressentent d'unique dans une langue qui est à tout le monde avec des mots qui ne sont à personne. En tentant de faire passer la pureté de leurs sentiments dans l'impureté de la langue. En tentant de renouer avec l'invention du langage. Oui, l'invention du langage. Car à quoi bon avoir inventé des mots si ce ne fut d'abord pour parvenir à dire quelque chose d'aussi indicible que « je t'aime » pour, sans les mains, tendre la main et exprimer ce qui, tout au fond de soi, s'élance vers l'autre et cherche à s'étendre à l'infini, exige d'éclater au grand jour comme une force impossible à contenir, une lumière devant éclairer le monde, le meilleur de soi-même sans lequel l'homme n'aurait jamais trouvé l'énergie de se dresser sur ses deux jambes et de cesser de se prendre pour un singe, etc. Croit-on que le langage a été inventé pour dire « bonjour, bonsoir, on mange quoi à midi ? Y a quoi à la télé ce soir ? Mets pas tes coudes sur la table, allez, l'OM !» Laisse-moi rire. C'est parce qu'il y a un indicible, par définition, que nous ne pouvons pas garder pour nous et qu'il nous faut pourtant partager, et pour aucune autre raison. Et voilà une nouvelle théorie du langage qui me plaît bien. Parvenu à ce stade, j'aimerais qu'un génial inventeur mette au point une norme de compression littéraire à l'instar de celle dont bénéficient les sons MP3, AC3, les images, JPEG, TIFF, et les vidéos MP4, AVI, DIVX, car il n'y a pas de raison pour que les textes ne profitent pas d'un progrès technologique partout à l'œuvre qui, même en supprimant des harmoniques qui font la différence, permettrait d'alléger ce que nous avons à dire, et dans mon cas, ça ne serait pas du luxe. Je serais plus à l'aise pour parler du jour où ma mère m'appelait au téléphone pour me dire qu'elle m'aimait. Elle venait d'avaler une boîte de Lexomil mélangée avec de l'alcool et, avant de mourir, au moment de mourir, elle avait pris son téléphone, elle m'avait appelé pour me dire qu'elle m'aimait. Elle voulait, juste avant de mourir, que je sache combien elle m'aimait. Elle tenait absolument à me le dire de vive voix, d'une voix mourante, plutôt, que j'en sois bien convaincu après tant d'autres fois. Et comment dit-on « je t'aime » Comment fait-on ses adieux ? Moi, au sans-cou, à l'autre bout du fil, totalement affolé, tandis que sa voix partait dans les limbes, faiblissait affreusement, sa voix bourrée de l'exomil, que j'entendais tituber dans le combiné, buter sur les mots, se vautrer de tout son long dans le creux de mon oreille, devenir pâteuse et de plus en plus molle et pantelante dans le creux de mon oreille, de plus en plus faible et imperceptible, de plus en plus minuscule, infime filet de voix, simple souffle, absence de souffle. Silence. Maman ? Allô ? Allô ? Maman ! Elle expirait à l'autre bout du fil et moi devenant fou à l'autre bout de la ville, moi volant en éclats, ne sachant plus que faire. Comment la sauver ? Je m'arrachais les yeux, je me cognais la tête contre le mur, mais comment pouvait-elle me faire ça ? Comment la sauver ? D'une part, je devais rester au téléphone pour la maintenir éveillée et qu'elle ne sombre pas, surtout pas, mais d'autre part, il fallait que je raccroche pour prévenir les pompiers et vite qu'ils se précipitent, vite qu'ils défoncent la porte et la raniment en lui enfonçant des tuyaux partout et... Comment dit-on « je t'aime » ? Mais pas comme ça, m'étais-je crié en moi-même ce jour-là. Et ce cri ne m'a plus quitté. Depuis ce jour-là, plus personne ne peut me dire « je t'aime » sans qu'aussitôt je serre les poings, grince des dents, gémisse tout au fond de moi, me blinde, appelle les pompiers, qui que ce soit. C'est devenu une très mauvaise idée dans mon cas. La pire chose à me dire, ce qui ne facilite pas les relations amoureuses, certes non, tellement je me crispe dès qu'on me dit « je t'aime ». Devient granit, bloc de glace, boule de feu, sirène hurlant dans la nuit, devient un pimpon. Tellement me dire « je t'aime » ressuscite une situation que je ne veux à aucun prix revivre, jamais. Une fois suffit, cette fois-là fut de trop, cette angoisse-ci fut trop folle. Alors que je veux bien qu'on m'aime. Hein. Et aimerais évidemment me l'entendre dire. Mais pas si dire « je t'aime ». Loin de combler de bonheur, produit l'effet exactement inverse, produit un sentiment d'insécurité, un sentiment de panique, un sentiment d'impuissance et un réflexe pavlovien de rejet. Cela fait tout de même beaucoup d'embarras à la fois. Hein. Cela fait de moi un être comment dit-on à quelqu'un qu'on l'aime ? Et comment se l'entendre dire ? Niveau 11. Dans les années 60 et 70, les époux Harlow, Harry et Margaret Harlow, ils menèrent des expériences demeurées célèbres sur des petits singes de l'espèce Macaque rhesus, avec l'objectif avoué, mais on n'est pas forcé de les croire, d'étudier l'importance des interactions physiques directes dans le processus de socialisation à travers l'attachement à la mère. Ce qui, trois décennies durant, leur valut d'importants crédits de la part de l'administration américaine. Trois décennies durant. En pratique, il s'agissait de soumettre des petits singes à des expériences de privation maternelle via tout un tas de dérèglements sensoriels et d'observer ensuite les troubles qui en résultaient, les dégâts possiblement symptomatiques et catastrophiques. Pour ce faire, les époux Harlow, ils imaginèrent un certain nombre de protocoles expérimentaux au nom évocateur, par exemple, isolement partiel ou total, les troubles apparaissant plus sévères lorsque l'isolement était total plutôt que partiel et, quelle surprise, quelle magnifique découverte. Par exemple, l'expérience dite « puits de désespoir ». C'est ce protocole que je préfère. L'expérience consiste à arracher un petit singe macaque à sa mère sitôt après sa naissance et à étudier ses réactions si on lui présente à la place une grande structure métallique, celle-ci baptisée « mère fil de fer ». Dans ce dernier cas, le petit singe va-t-il se précipiter vers ce substitut de métal ? Parce que c'est la seule mère dont il dispose, fut-elle fil de fer ? Va-t-il plutôt se détourner, pas dupe, et réclamer sa vraie mère ? Son affection pour elle va-t-elle s'en trouver amoindrie, dénaturée ? Comment va-t-il se comporter ? Comment va-t-il régler son besoin d'amour ? Suspense. Sacré suspense. Il se trouve que le petit singe, d'abord terrorisé, finit par se blottir tendrement contre la carcasse métallique, l'enlaçant comme si c'était sa vraie mère, se pelotonnant absolument contre elle, comme s'il ne faisait pas vraiment la différence, parce qu'il n'a pas vraiment le choix non plus. Et si on soumettait maintenant le petit singe à quelque chose de vraiment effrayant ? S'enthousiasme Harry dans une des vidéos que lui et sa femme tournèrent à l'époque à des fins pédagogiques et démonstratives. Oh oui ! Et si la structure métallique, au moment où le petit singe cherche à se blottir contre elle, crachait du feu ? Mais quelle excellente idée ! Quelle splendide expérience ! Hourra ! Youpi ! Car il fallait être sûr de la solidité de cet attachement de l'enfant pour sa mère. Il fallait en avoir le cœur net. Il fallait, pour la science, plonger au fond du désespoir le plus profond. Il s'agissait de savoir jusqu'où le contact sensoriel était primordial dans le processus de socialisation d'un petit singe. Ainsi fut fait. On arracha un autre petit singe à sa mère naturelle et, sacré vénard qu'il était, on le fit entrer dans la pièce où la mère cracheuse de feu avait été disposée. celle-ci cachant toutefois bien son jeu à ce moment-là. Elle ne crachait le feu que si le petit singe s'approchait d'elle. Si c'était lui qui provoquait la réaction de rejet, qui allumait le feu maternel, lui et son fichu besoin d'amour qui était coupable, finalement. Comment allait-il réagir ? Le suspense était cette fois insoutenable. Les époux Harlow retenaient leur souffle derrière la vitre. Leur caméra n'en perdait pas une miette. Cette fois, c'était du sérieux. Cette fois, ce n'était pas une rébarbative structure métallique que le petit singe allait devoir braver pour obtenir amour et tendresse. Cette fois, sa mère allait cracher feu lorsqu'il s'approcherait d'elle. Elle allait lui balancer toute sa purée dès qu'il chercherait à se blottir contre elle et à l'enlacer de toutes ses forces pour qu'elle le protège de tout son amour. Ah, il ne s'attendait pas à ça, le petit singe. Ah, il n'avait jamais envisagé que sa mère puisse être un lance-flamme. Surprise, surprise! Que croit-on qu'il se passa? À ton avis? Le petit singe s'est-il jeté dans les flammes et il a fini grillé comme une côtelette, sous les yeux émerveillés des époux Harlow? L'amour pour la mère est-il à ce point irrémédiable? Notre besoin de tendresse est-il si ancré et immense que nous pouvons lui sacrifier notre corps, notre être, tout? À ton avis? Je te donne un indice. Les époux Harlow ont conclu de cette expérience qu'autrui est essentiel, mais pas n'importe quel autrui. Sans blague! Sans déconner? Elle leur avait fait quoi, leur maman, aux époux Harlow? Niveau 9. Je profite de l'occasion pour faire passer le message que l'on peut préférer se taire. Justement. On peut préférer se taire non parce que nous souffrons d'une incapacité pathologique à nous exprimer, mais parce que personne ne nous écoute jamais. Personne ne prend jamais l'exacte mesure de ce que nous cherchons à dire de spécifique et de personnel. Ainsi que j'ai vérifié des millions de fois, même auprès des gens les mieux disposés à mon égard. Personne ne se trouve jamais sur la même longueur d'onde que nous. Ce qui nous paraît important et significatif ne l'est jamais pour qui que ce soit d'autre. Nous faisons des phrases et elles tombent dans l'oreille de sourds. Nous faisons des phrases et elles sont aussitôt traduites dans une langue qui nous est étrangère avec des mots qui ne sont pas les nôtres, une syntaxe qui procède d'une autre histoire, une musique qui nous est inconnue et finalement, rien ne se passe comme nous l'espérons. Nul déclic dans notre sens. Le monde continue sur sa lancée et il nous faut nous pincer pour ne pas être engloutis dans ce néant. Nous pissons en permanence dans un violon et nous crions dans un désert et ce désert est notre unique interlocuteur. Et à quoi bon entretenir l'illusion que ce ne serait pas le cas? À quoi bon aller au-devant des malentendus et de fil en aiguille, au-devant des ennuis, si, loin de laisser à nos pensées une chance de vivre leur véritable vie, les autres en font des confettis? Quand ils ne les contestent pas, à peine nous les formulons? Quand ils ne leur chient pas carrément dessus, ou ne les retournent contre nous en leur prêtant toutes sortes d'arrière-pensées qui, je te le donne en mille, ne sont jamais d'heureuses arrière-pensées. Et nous avons beau dire et protester, et nous arracher les cheveux, s'il nous en reste, notre compte est bon. Nous restons seuls et étourdis d'amertume de constater combien les autres n'ont que leur incompréhension à nous offrir. Bon Dieu, nous déployons des efforts insensés pour tenter de nous faire comprendre et nous en appelons désespérément à la compréhension d'autrui sans soupçonner que c'est à l'incompréhension d'autrui que nous en appelons en réalité et uniquement à son incompréhension. En permanence, les autres nous incomprennent. Et ils nous incomprennent parfaitement. Du verbe « incomprendre ». Que j'aimerais beaucoup voir entrer dans le dictionnaire, qu'on se le dise. Et réciproquement, puisque de notre côté, nous n'avons que notre incompréhension à offrir. Notre incompréhension et non notre compréhension. Et au bout du compte, jamais la liberté des uns ne se déploie à travers la liberté des autres. Jamais. Au bout du compte, c'est une incompréhension mutuelle et réciproque qui nous lie les uns aux autres. Ce n'est rien d'autre. Et même si quelqu'un se dit d'accord avec nous, nous savons qu'il n'en est rien. Nous savons qu'il n'a strictement rien compris à ce que nous disions, car il ignore d'où nous parlons. Il ignore les tenants et il ignore les aboutissants de ce que nous disons et quelle méprise de tous les côtés. Quel foutu carnaval et quelle perte de temps. Et mieux vaut finalement garder les choses pour soi et couper net les communications. Mieux vaut rester concentré, et silencieux, et botter en touche nos rêves de partage et de réciprocité, car cela s'avère toujours moins douloureux que de se retrouver encore une fois avili et frustré, et encore plus par les temps qui courent, où plus personne ne supporte réellement plus personne, et où tout le monde surveille son voisin autant qu'il se flique lui-même, faisant régner à chaque instant une espèce de terreur dans les relations humaines et une exaspération envers autrui devenu le dernier lien social et... Bref. Je crois que les autres ne nous méritent pas. Voilà. C'est la conclusion à laquelle, contraint et forcé, j'aboutis pour ma part. Entre les autres et moi, il a fallu que je choisisse. Simple question de survie. On a beau se dire et répéter que les autres nous enrichissent, c'est faux. Quels autres ? Quels autres ? Ceux qui nous ressemblent ou ceux qui ne nous ressemblent justement pas ? Ceux qui sont forts et qui nous tirent vers le haut ou ceux qui sont faibles et que nous devons aider ? Ceux qui ont l'audace d'être eux-mêmes ou ceux qui ont l'humilité de n'être rien ? Ceux qui sentent en eux le lyrisme de la vie ou ceux qui savent que c'est peine perdue ? Quels autres ? Ceux avec qui un échange, un contact, un partage, un don et non un gain est possible sans que cela tourne immédiatement au pugilat et ils sont où ceux-là ? Non ! Les autres nous appauvrissent dès que nous leur en offrons l'occasion, et particulièrement de nos jours, où la plupart des gens n'ont plus accès à eux-mêmes tellement ils confondent leur vie intérieure avec la vie sociale qu'ils ont intériorisée. Je ne plaisante pas. Les autres m'ont toujours globalement appauvri et ils m'ont constamment détourné de mon chemin en faussant mon cap avec leurs incompréhensions toujours plus obtuses et avec leurs jugements toujours plus expéditifs. Et je ne dis pas cela pour toi. Ne crois pas. Mais voilà pourquoi se taire est, selon moi, l'attitude la plus raisonnable et sensée et lucide que l'on puisse avoir, connaissant les gens et se connaissant soi-même. Et fin du message, fin de la communication.
Tango Zulu over.
Niveau 15. Nous étions à ce moment-là rue Tronchet, venant de la rue Vignon, anciennement rue de la Ferme, nous dirigeant doucement vers la rive gauche après avoir quitté le bar trop bondé à notre goût, trop bruyant, trop clinquant, pas du tout propice finalement. Nous allions doucement, tendrement, en direction de la Madeleine et de là vers la place de la Concorde, l'obélisque, la Seine qui se la coule douce, le pont qui fut construit avec les pierres de la Bastille. Nous étions rue Tronchet. Déserte à cette heure, juste la circulation, les vitrines des boutiques de luxe, les halls d'hôtels, 3 ou 4 étoiles qui me donnaient l'envie de pousser leurs portes vitrées et de demander la plus belle chambre pour y conduire M par la main. Et nous ne sortirions plus de la belle chambre, jamais plus, pas avant le lendemain en tout cas, vivant dans cette plus belle chambre, la vie qui vaut la joie d'être vécue et cette rue tronchée. Oui. Cette rue tronchée. Cette rue tronchée. Ce n'est que bien plus tard que j'ai réalisé que Frédéric attend Madame Arnoux rue tronchée. Dans cette rue tronchée et pas une autre. Le nom de cette rue m'avait fait sourire lorsque j'avais lu l'éducation sentimentale. Je m'étais demandé si Flaubert l'avait choisi exprès pour faire entendre le graveleux sous les sentiments et ainsi dire sans dire de façon toute bourgeoise, mais Madame Arnoux ne vient pas. Elle ne vient pas se faire. Et cette attente de Frédéric rue tronchée. Cet amour de Flaubert pour Elisa Schlesinger, amour de toute une vie, attente de toute une vie, condensée en 7 heures. Dès 11 heures, il sortit. 2 heures, enfin, sonnèrent. Il vit 4 heures à sa montre. 5 heures arrivèrent, 5h30, 6 heures. Le gaz s'allumait. Madame Arnoux n'était pas venue. 7 heures. Toute une éternité. Mais Madame Arnoux était venue. Elle était avec moi. C'était elle à mes côtés, en bien plus jeune cependant, ondulant sur le trottoir, vêtue de son habituel jean gris et ce soir-là d'une chemise de soie couleur lilas qui donnait envie de déboutonner lentement chacun de ses boutons l'un après l'autre jusqu'à l'offrande nue. Nous étions rue Tronchet, nous marchions lentement lorsque M, soudain, s'arrêta, se tourna vers moi. Et sans rien dire, sans prévenir, comme au ralenti, en fermant les yeux, passa ses 2 bras autour de mon cou et m'enlaça. m'enlaça totalement, m'enlaça moi. Ses deux bras autour de mon cou, en une étreinte irrésistible, une volonté de me prendre tout entier. Sans se pendre à mon cou cependant, non. Son étreinte n'avait rien de tragique, rien de forcené, ni d'hystérique, non. Elle était un don. Elle était une approbation, elle était un infini. Il s'agissait d'un consentement qui savait sa propre signification et qui savait toutes ses conséquences. Oui, enfin, elle venait à moi, enfin s'abandonner, de sa propre initiative, dans un élan qui venait du plus loin, une tendresse qu'elle ne pouvait cette fois censurer et qu'elle ne voulait plus censurer, plus jamais peut-être, comme on rend les armes, en un geste que j'espérais tellement d'elle, que j'attendais désespérément depuis toujours, peut-être depuis l'âge de 12 ans au moins, qui valait mieux que toutes les chambres d'hôtel, valait mieux que tout. Qu'elle me reconnaisse par-delà ses peurs et ses calculs, qu'elle me reconnaisse enfin et me le fasse savoir, je n'ai pas honte de le dire. Des larmes m'en vinrent aux yeux, des larmes jaillirent de mes yeux et inondèrent mon visage tandis que je serrais dans mes bras son corps chaud et fluide qui ne faisait plus qu'un avec le mien, elle en moi et moi en elle, tous les deux amalgamés dans la nuit, fondus ensemble dans la rue, enfouis l'un dans l'autre, éperdus avec une telle tendresse, une telle ferveur, ce spasme de bonheur que je connus, ce pardon de toutes mes fautes passées, présentes et à venir. Plus jamais ma vie ne serait une anecdote. Elle commençait là. Quoi ? Mon étreinte de l'existence, dans cette rue tronchée. Un temps que je ne saurais dire, que je ne veux surtout pas chercher à mesurer, nous restâmes enlacés, moi les yeux fermés, mon visage noyé dans ses cheveux, mon cœur tambourinant le sien, tous les deux palpitant à l'unisson, frissonnant et bouleversé. Je sentais son souffle dans mon cou, à mon oreille, sa voix murmurait quelque chose. Sa voix si basse et minuscule. Quoi ? Que dis-tu ? Soufflai-je d'une voix étranglée par l'émotion. Je comprends pas. Elle murmurant de nouveau, articulant dans un souffle. Je vous aime. Répétant dans un souffle. Je vous aime. Je vous aime. Souligné 1 milliard de fois. Je vous aime. Oh, ma chérie. Oh, mon amour, si tu savais. Mais son corps de se dérober tout à coup. Son corps, je ne compris pas tout de suite. Son corps, il devint mou. Il devint flasque entre mes bras. Il ne tenait plus debout. Sa tête, elle bascula en arrière, affreusement molle et pantelante. Sous moi, je la sentis s'affaisser tout entière, chanceler, ne plus tenir sur ses jambes, glisser le long de mon torse, s'effondrer infiniment sur lui-même, et moi de chercher à la retenir, moi d'accompagner sa chute sans pouvoir l'enrayer, la prolongeant en fait le plus doucement que je pouvais, jusqu'à plonger à mon tour dans ce vertige, tandis que M se répandait comme une flaque sur le sol, les yeux révulsés, les bras en croix, livides sur le trottoir de la rue tronchée. Morte ? Mais non, elle était juste évanouie. Sans que ce soit juste, elle faisait un malaise. Ah voilà, ce n'était qu'un malaise. Attends, du calme, mais quel malaise ? De quelle nature ? Pourquoi ? Elle avait dit « Je vous aime ». Et elle avait perdu connaissance. Pute ! Comme une baudruche était dégonflée. Dans les vapes était tombée, comme si c'était trop pour elle. Comme on s'absente, comme on s'enfuit. Coupe court, comme on ne veut plus rien savoir, comme on a tout dit, comme on monte au ciel. Je n'en ai pas l'air, mais je suis très sensible, disait-elle. Ah la vache, la petite futée. M'avouer qu'elle m'aimait, me l'avouer enfin et disparaître aussitôt. Me laisser tout seul, en plan, avec sur les bras sa déclaration d'amour, à croire que c'était désormais mon problème, qu'elle avait fait sa part du boulot et que je me débrouille maintenant du reste. Ce qui se passerait ensuite ne la concernait plus, c'était à moi de jouer. À son réveil, elle serait au paradis ? En enfer. Elle verrait bien. C'était pas à elle de décider, elle ne le pouvait pas. Elle était allée au bout de ses forces, au bout d'elle-même. Elle ne pouvait pas faire davantage. Comprenais-je ? Ok. Si c'était ainsi, si elle était la belle au bois dormant, si j'étais le tombeur de madame, ok, tout m'allait. Maintenant qu'elle m'aimait, elle l'avait dit, oui ou non ? Elle l'avait dit. Et qu'elle le dise n'était pas rien. Cela voulait dire qu'elle m'aimait. Cela voulait dire que c'était vrai. Qu'elle le dise de cette façon jusqu'à s'évanouir et s'effondrer sur elle-même, cela voulait dire que ce n'était pas que des mots. Cela voulait dire qu'elle m'aimait à en mourir. Cela, le message qu'elle venait de me faire passer. Elle l'avait dit. Et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas grincé des dents, pas serré les poings, pas eu envie de raccrocher immédiatement, même si j'avais tout de même appelé les pompiers. Comme par hasard, la même situation. On ne se défait pas aussi facilement de ses névroses. Niveau 20. Elle va bien. Elle est stabilisée, là. Elle a repris connaissance, mais elle va rester en observation. C'est l'interne de garde qui parle. Enfin des nouvelles. Elle est très faible, continue l'interne de garde, les prises de sang n'ont rien révélé d'anormal. Un taux d'alcoolémie sans plus, faudra faire des examens complémentaires, hein, c'est pas normal. Hein. Ses constantes sont très basses, elle doit s'alimenter, hein, on l'a mise sous perfusion. Elle a vraiment rien pris ? Un seul verre de vin, hein, c'est bien ça ? En consultant ses fiches, vous êtes sûr ? Pas d'autres substances ? Regard soupçonneux. C'est bizarre. Vous pouvez me raconter ce qui s'est passé exactement ? Non, mais oh, calmez-vous, monsieur, là. Vous me semblez bien énervé, là. Mais vous-même n'avez rien pris, là ? Aucune substance, là ? Il vaudrait mieux le dire, hein ? Regard encore plus soupçonneux. Bon, très bien. Oh, mais calmez-vous, là, tout va bien, hein ? Elle a ri dans son coma.
Pardon ?
Oui, elle a éclaté de rire tandis qu'elle était inconsciente. Tout va bien, je vous dis. On la garde en observation, je vous préviens quand vous pourrez la voir. Hein, vous inquiétez pas. Tout va bien.
Ah ben bien sûr que tout va bien.
Bien sûr qu'elle a éclaté de rire tandis qu'elle était inconsciente. Bah oui, évidemment, la joie trop forte. Hein. La joie la plus forte. Comment pourrait-il en être autrement ? Comment dire ? Comment lui dire à cet interne de garde, la vie est un rire ? Comment ne pas le lui hurler au visage à ce messager des dieux avec sa blouse blanche ouverte, les stylobies qui dépassent de sa poche, le stéthoscope pendouillant autour de son cou, tout l'attirail de l'autorité, ses sourcils impressionnants, exceptionnellement broussailleux, les sourcils visiblement une chose importante dans sa vie. Hein. Oui, comment lui expliquer qu'il n'y a pas besoin de substance quand l'émotion devient si pure, si intense, si concentrée et profonde que la conscience peut n'y pas résister ? Et submergé de dopamine s'en trouver temporairement aboli. Comprend-il ? C'est l'amour, la substance. Il n'en existe aucune autre qui fasse autant d'effet. Il suffit de voir dans quel état de manque il peut me mettre. C'est l'amour, la substance. Niveau 11. Ceci dans mes petits carnets que je retranscris à la volée, en vrac, sans me relire. Deux points, ouvrez les guillemets. Quel con de s'être suicidé, mais quel con. On demande toujours de quoi est mort quelqu'un, mais de quoi vivait-il ? Le sait-on ? Le demande-t-on ? Tous mes phares, je dis tous mes phares, j'écris tous mes phares. Au commencement est l'effarement. L'effarement est ma boussole. Je suis même effaré d'être effaré. Effaré de le dire. Effaré que le mot effarement existe. Effaré de ce qui m'arrive comme de tout ce qui se passe dans le monde. C'est moi l'homme effaré. Où commencent nos actes ? Où finissent-ils ? Ricazaraï. Quand j'avais 10 ans, j'ai donné un coup de poing à un camarade et il est mort l'année suivante avec toute sa famille dans un accident de la route. Cela m'avait drôlement perturbé. Ce qui ne nous abat pas nous rend plus forts. Mais à ce rythme, je devrais être Superman. Chacun est bien placé pour savoir que ce qui ne l'abat pas le détraque et l'insensibilise, le hante. Mais parce que nous prenons conscience de cette mutilation, parce que nous nous endurcissons, nous nous croyons devenus plus forts. Nous pensons avoir gagné au change. Ce n'était pas mieux avant. Certainement pas, mais c'est pire aujourd'hui. Et comment est-ce possible si ce n'était pas mieux avant ? Que retient-on d'un livre à son niveau individuel ? Une ou deux phrases qui nous sautent soudain au visage ? Une ou deux phrases, et c'est déjà bien beau ? Une ou deux phrases qui passent directement dans notre langage courant, pour ne pas dire dans nos veines ? Une ou deux phrases qui s'enfuient avec nous, comme si nous étions leur butin ? Les gens, ils vont au stade, ils se voient soudain sur l'écran géant, et ils sautent immédiatement de joie, ils éclatent de rire à leur vue, c'est plus fort qu'eux.
pas un se découvrant sur l'écran géant qui se met à fondre en larmes. Que deviennent les gifles qui se perdent ? C'est moi, monsieur Gicle ! Je ne discute pas, je gicle ! Il s'agit de demeurer injustifié dans un monde injustifiable. Des dindes qui votons pour Noël, voilà ce que nous sommes. Qu'avons-nous de si exceptionnel les uns et les autres, de si prestigieux, pour que l'un de nos semblables, quelqu'un fait de la même viande, ait tombé pareillement d'un vagin, voué tout autant à la décrépitude et au néant, puisse, tout à trac, comme ça, d'un coup de baguette magique, du seul fait que nous serions qui nous sommes, nous trouver dignes d'intérêt ? Puisse poser ne serait-ce qu'un regard sur nous sans y mettre un peu, beaucoup, passionnément, à la folie du sien ? Alors qu'il suffit de se regarder dans une glace, qui voudrait de soi s'il se rencontrait ? Franchement, sachant ce qu'il sait de lui, sachant tout ce qu'il sait sur son compte, sur ses entrefaites. J'ai toujours rêvé de commencer un paragraphe en disant « Sur ses entrefaites, je ne sais pas pourquoi. C'est quoi l'homme ? C'est celui qui humanise. Sait-on que l'objet du désir éprouve lui aussi des désirs ? Tant que j'écris, je me sens protégé, je suis protégé, il ne peut rien m'arriver de mal, je ne peux pas mourir, c'est impossible, j'en suis convaincu. C'est pourquoi je ne peux plus m'arrêter d'écrire, j'écris contre la mort, j'écris pour rester en vie, c'est moi, Scheherazade, et... etc., etc., etc. » Niveau 6. Aujourd'hui, je sais que j'aurais dû forcer la décision sur le rebord de la cheminée. Oui, j'aurais dû foutrager M comme il le fallait. Franchir son Rubicon en deux mots afin qu'on n'en parle plus de ses histoires de sexe, qu'elle ne soit plus la question avec un grand cul. Ah oui. J'aurais dû lui farcir la dobrade et lui succuber la gloutine et lui gorier l'arcuvette et plutôt mille fois qu'une. J'aurais dû lui dégonder amoureusement la jante fente et lui poiler ardemment la mimolette jusqu'à ce que les poils lui rebroussaillent. Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Ce fut une tragique erreur que de céder devant elle. Ce fut une faiblesse coupable que d'adouber sa volonté, comme si sa volonté était sacro-sainte. Et d'où le serait-elle ? Je pose amèrement la question. Parce que notre volonté, comment dire ? Il arrive qu'elle soit l'expression d'une hostilité envers soi-même. J'en sais quelque chose. Combien de fois ai-je surpris ma volonté conspirer contre moi ? Des millions de fois. Elle m'assurait que je voulais ceci et que je ne voulais pas cela. Mais c'était faux, c'était des cracks, c'était pour me nuire. Et qui peut certifier que M n'était pas dans le même cas ? Le doute était permis, dis-je le cœur rongé d'amertume, comme dit si bien l'autre. Il est désormais naturel que nos contre-instincts se substituent à nos instincts. Et comprends-tu ce que cela implique, suggère, crétin des Alpes que je suis, misérable racteur de bidet, pauvre bachibouzouk de mes deux ? C'est mon instinct que j'aurais dû écouter plutôt que les contre-instincts de M. C'est à l'idée que j'allais l'honorer de la plus belle des manières et non la déshonorer de la pire des façons que j'aurais dû me fier. Je savais que j'étais du côté du bien à ce moment-là. J'étais dans le vrai à ce moment-là. Et M le savait aussi bien que moi. Elle le savait mieux que moi. Elle le savait peut-être trop bien. En dépit de ses réticences et à cause de ses réticences, justement, sachant qu'elle avait murmuré « Je vous aime » dans le creux de mon oreille. Et c'était pas comme si elle ne m'aimait pas. Voilà, c'est dit. Ainsi fait-on son malheur. Car on ne couche pas un jeu gagnant, c'est mépriser la partie qui se joue, et en l'occurrence, ce fut mépriser l'amour que de ne pas le faire ce soir-là, fût-ce pour rigoler. Au commencement pour rigoler, dis-je avec des sanglots de frustration dans les yeux. Qui ne sait que c'est le plus névrosé qui l'emporte toujours ? Pourquoi est-ce toujours la personne qui a froid, qui oblige 30 collègues à suffoquer dans des bureaux surchauffés ? Niveau 10. D'accord. Ce que nous ne faisons pas ne peut pas nous être reproché. Ce que nous ne faisons pas n'est jamais répréhensible aux yeux de la loi ni à nos propres yeux, car c'est ce que nous faisons qui nous expose à la faute et... je ne sais pas. Je pense soudain au capitaine Kimball R. Richmond. Au capitaine Kimball R. Richmond qui, au début du mois de mai 1945, libéra le camp tchécoslovaque de Falkenau à la tête de la division américaine Big Red One. Et le capitaine Kimball R. Richmond, il n'en revint pas. Pas seulement des horreurs du camp de Falkenau, mais du fait que les premières maisons du village de Falkenau se trouvaient à une quinzaine de mètres seulement du mur d'enceinte du camp de Falkenau. Elles se trouvaient à portée de voix. Mais les habitants du village de Falkenau, Lorsque le capitaine Kimball R. Richmond les interrogea, ils prétendirent qu'ils ne savaient pas ce qui se passait dans le camp de Falconao, qui se trouvait pourtant juste sous leur nez. Ils n'en avaient pas la moindre idée. Ils ignoraient les horreurs qui s'y commettaient depuis des années. Ils ne les avaient jamais soupçonnées. La fumée, l'odeur pestilentielle, les cris, les rafales de mitraillettes, les convois. Non, ils n'avaient rien vu, rien entendu, rien senti. Désolé, mille excuses. Ah, s'ils avaient su, bah, pour sûr, évidemment, ils croyaient quoi, le capitaine Kimball R. Richmond, ils n'étaient pas des monstres, ils n'étaient que de paisibles villageois, ils étaient de bonnes personnes, ils ne savaient pas, ils n'étaient au courant de rien. Ah non, 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 non. On ne sentait aucune odeur particulière, on ne savait pas, on ne se doutait pas, répondit le banquier le plus important du village de Falconao, comme s'il parlait au nom de tous, vêtu d'un chaud et luxueux manteau gris. Et on tombe des nues d'apprendre ce qui se passait si près de chez nous. Confirmèrent les autres villageois, notables ou petites gens, comme on dit, tous parfaitement étonnés. Pourquoi on s'en prenait à eux? Ils n'avaient rien fait. Ok, dit le capitaine Kimball R. Richmond. S'il le prenait sur ce ton, s'il voulait jouer à ce petit jeu, ok. Mesdames et messieurs du village de Falconao, ok. À ces hommes, le capitaine Kimball R. Richmond ordonna qu'il rassemble toutes ces bonnes gens du bon village de Falconao, qui prétendaient n'avoir rien su de l'immonde saloperie qui se déroulait à même pas 15 mètres de leurs habitations, juste sous leurs fenêtres. N'avoir jamais rien vu ni rien entendu, jamais senti l'odeur pestilentielle qui se dégageait du camp de Falconao alors qu'elle empuantissait l'air à des centaines de mètres à la ronde, alors qu'elle était une véritable infection, absolument perceptible depuis des années, même pour ceux qui étaient anosmiques, hein, car c'était au-delà d'avoir le nez bouché. Bien au-delà. Il voulait vraiment jouer à ce petit jeu? Sachant que le problème n'était pas qu'il n'ait rien fait pendant toutes ces années, qu'aurait-il pu faire? Nul ne peut le dire. Ils n'étaient pas des soldats. Le problème, c'était le déni. C'était que tous plaidaient l'ignorance la plus totale et, ce faisant, plaidaient l'innocence, alors qu'il était impossible qu'ils aient pu ignorer ce qui se passait juste sous leur nez. Alors que le seul fait de nier l'évidence était reconnaître qu'ils se sentaient coupables et qu'ils l'étaient donc, au moins à leurs yeux et aux yeux de ceux qui, des années durant, avaient été assassinés dans le camp tout proche de Falconao. Leur déni était en fait un aveu et, de sa propre autorité, le capitaine Kimball R. Richmond réunit toutes les braves gens du village de Falconao, tous les hommes et toutes les femmes qui mentaient de façon aussi grotesque et éhontée à propos de ce qui se passait depuis des années juste sous leurs fenêtres, à même pas 100 mètres de leurs habitations, et de sa propre autorité, pour des raisons logistiques aussi, le capitaine Richmond obligea ses bons notables et ses petites gens à sortir un à un les dizaines de cadavres que les nazis avaient assassinés et jetés dans des fosses comme on jette des ordures et qui, tel un immense tas d'immondices dégageant une odeur pestilentielle, s'empilaient les uns sur les autres et pourrissaient à l'air libre depuis un temps innommable. Cela fait, toujours de sa propre autorité, le capitaine Richmond obligea ses bons notables et ses petites gens à aligner côte à côte tous les cadavres de façon aussi digne que possible, en rang d'oignon, sous le regard de tous les prisonniers libérés du camp de Falconao, qui les regardaient faire en silence, afin que chaque corps soit restitué à lui-même, et non plus amoncelé en un immense tas d'immondices. Et, cela fait, le capitaine Richmond, de sa propre autorité, obligea les bonnes gens du village de Falconao, le banquier en tête, à déposer chaque cadavre exhumé des charniers de Falconao sur des draps blancs, qui étaient les draps blancs que les habitants du village de Falconao durent aller chercher dans leurs propres armoires, et qui étaient les draps blancs dans lesquels ils dormaient chaque nuit sur leurs deux oreilles depuis des années, et, cela fait, le capitaine Richmond, toujours de sa propre initiative, obligea chaque habitant de la ville de Falconao à habiller chaque cadavre avec les habits dont ces bonnes gens se vêtaient chaque jour pour aller à la messe, boire et manger midi et soir, discuter de choses et d'autres, rire de choses et d'autres, se soucier de choses et d'autres, mais surtout pas de ce qui se passait à moins de 15 mètres de leurs habitations. Et cela fait, de sa propre autorité, le capitaine Richmond obligea la population du village de Falconhaugh à transporter dans des charrettes les cadavres jusqu'au cimetière de la ville de Falconhaugh. Et par cette procession macabre et solennelle à travers la ville de Falconhaugh, chaque villageois put voir qu'il se passait des choses à moins d'une centaine de mètres de son habitation. Chacun en eut la preuve, passant sous sa fenêtre, et cela fait, une fois que plus personne ne put plus nier ni prétendre ignorer ce qui pouvait se passer sous son nez, le capitaine Kimball R. Richmond obligea ces bonnes gens de la ville de Falconhaugh à enterrer dans le cimetière de la ville de Falconhaugh les cadavres du camp de Falconhaugh et à recouvrir chaque corps d'un drap de Falconhaugh afin qu'ils soient tous enterrés comme des êtres humains et que ce soit eux, les gens de Falconhaugh, les notables comme les petites gens, le banquier en tête, qui les enterrent. Eux et personne d'autre. À la sueur de leur propre front, dans leur propre cimetière, à côté des membres décédés de leur propre famille, comme s'ils en faisaient partie, pour leur apprendre à mentir de façon aussi grotesque et éhontée sur ce qui s'était passé d'innommable pendant des années, là, juste sous leur fenêtre, ainsi que le filma avec une petite caméra 16 mm Bell & Howell à manivelle que sa mère lui avait fait parvenir le soldat Samuel Fuller, dans ce qu'il définit lui-même comme étant un film d'amateur, mais les tueries étaient l'œuvre de professionnels. Niveau 25, nous avions échoué, n'avions pas pu, n'avions pas su, pas assez voulu, etc. Trop de choses s'étaient révélées contraires, tellement de choses, sociales et familiales et d'autres plus obscures, etc. Et il était trop tard à présent. J'avais beau regarder son visage à la dérobée, il me semblait qu'il reculait déjà dans l'ombre dans laquelle j'entrais moi-même. Etc. J'aurais voulu dire quelque chose pour dire, encore dire, malgré tout, essayer encore, rater toujours mieux, pourvu que ce soit avec elle, mais c'était inutile. Quelque chose s'était interposé. Mais quoi ? De quel refus s'agissait-il au juste ? De quel interdit ? Je n'avais pas d'explication, je n'avais pas de mots, je n'en ai toujours pas, etc. Le soleil éblouissait la rue devant nous, il allait mettre un temps fou à se coucher, et quand il serait couché, ça serait une très longue nuit. Les gens passaient sur le trottoir, leur démarche avait quelque chose de mou. Pour eux aussi, c'était bientôt Noël. On aurait dit qu'ils étaient payés pour faire de la figuration. Tout semblait tellement factice à cet instant. C'était l'un de ces moments où l'on s'efforce de jouer du mieux qu'on peut son rôle parce qu'il est impossible à tenir, etc. Je m'éternisais cependant. Je ne parvenais pas à me résoudre à... Je redoutais tellement ce qui... D'ici une heure, d'ici deux heures, d'ici cette nuit, et puis le lendemain, et puis les jours suivants, et les semaines et les mois, combien de temps exactement devoir affronter son absence, à ressasser mon propre anéantissement, à déplorer, à me haïr. Je songeais à cela, etc. J'avais fini mon café, tripoté l'emballage du sucre, le pliant en 4, en 6, en 8, le dépliant... Recommençant à le plier en 4, en 6, en 8, elle avait à peine touché à son perrier. À un moment, d'une voix qui me parut traduire exactement le fond de sa pensée, elle dit doucement, distinctement, sans aucune autre émotion qui n'appartint exclusivement aux mots qu'elle prononça. Vous me faites pitié. Je hochai la tête un instant, les yeux au loin, un peu éblouis par le soleil, me levai lentement, la regarder, rester un instant debout, immobile, devant elle, en plein soleil, sans cesser de hocher lentement la tête. C'était le moment, c'était le signal du départ. Je le savais, je le sentais. Je n'allais plus cesser de hocher lentement la tête à partir de maintenant. Je sortis un billet et le déposai sur la table. Le mot larmes, mais non. pas devant elle. Il était trop tard. Je levai les yeux vers son visage et l'effleurai du regard, comme un dernier baiser, un dernier cliché, puis murmurai d'une voix qui me fera honte toute ma vie. Vous aussi. Une dernière fois, je voulus regarder son visage, emporter avec moi une image qui serait la dernière que j'aurais d'elle, et cette image se graverait pour toujours en moi. Mais je ne la voyais plus. Elle avait déjà disparu à mes yeux, tant pis. Je tournai les talons et m'éloignai sans me retourner. M'éloignai et m'éloignai encore. M'éloignai toujours. M'éloignai. Comme si on m'attendait quelque part et qu'il y avait urgence. Sans cesser de bégayer en moi-même. Sans cesser de hocher intérieurement la tête. En me répétant ce qu'elle venait de dire. Son dernier mot. Son dernier souffle. Vous me faites pitié. Et moi de murmurer... Vous aussi. Presque du tac au tac, d'une voix qui me fera honte toute ma vie. Parce que je ne savais pas, je ne savais plus, je n'avais plus aucun charisme, plus aucun ustensile, ni croquignol, tartampion, cataplasme, mignardise, chichiglou, ave César. Ce n'était pas seulement que je m'éloignais d'elle à chaque pas que je faisais maintenant dans la rue, c'est que je devenais plus petit de seconde en seconde. Je rapetissais à vue d'œil et je me sentais rapetisser. Je me voyais rapetisser, devenir minuscule, disparaître peu à peu, au loin, jusqu'à n'être plus qu'un point, n'être plus rien, n'être plus, n'être plus. Niveau 14. Si rien ne justifie notre existence sur Terre, s'il n'existe aucune raison à nos malheurs ici-bas, à nos malheurs incessants et effroyables qui nous démolissent petit à petit, une lamelle après l'autre, alors, je ne sais pas comment finir cette phrase. Je ne veux pas la finir. Je ne vais pas mentir. Mettre des mots là où je n'en vois aucun. Si Dieu n'existe pas, si la société n'est plus qu'une entreprise, et nous tous sommes ses pertes et profits, si la réalité dépasse la fiction, et celle-ci ne la rattrapera plus, s'il n'y a rien après la mort, ni vie au-delà, ni paradis, ni enfer, si les hommes sont des bêtes féroces, et les femmes ont hâte de rivaliser, si la raison n'est qu'un affect comme les autres, si la culture tire vers le bas, à force d'être l'ombre marchande d'elle-même, si la science fait empirer les choses, et si le langage est une impuissance, si l'amour est un crime, et la camaraderie n'est qu'un mot, si la sagesse ne viendra jamais, et la bêtise sera toujours plus forte, si la vie s'est éloignée dans sa représentation, et adieu Berthe, si rien ne dure et que tout est voué au néant, si même les victimes deviennent des bourreaux et les carottes sont déjà cuites, l'air pollué, les dés partout pipés, si c'est à chaque instant chacun pour sa gueule, chacun sa merde, chacun seul dans son coin, oui, si même les temps ont privatisé le temps et nous n'avons plus accès à nous-mêmes, nous ne sommes plus que ce que l'on fait de nous, si même l'absurde a perdu son absurdité et si nous vivons et souffrons et parfois sommes heureux, et mourront de toute façon, sans savoir pourquoi, sans espoir de rien. Et hier, les portes du métro se sont fermées juste devant moi. Alors, je préfère ne pas finir cette phrase. I prefer not to. C'est préférable. Mieux vaut rester sans réponse. Mieux vaut rester avec la question sur les bras plutôt que de s'en débarrasser. Car tout ce que je pourrais dire ne ferait qu'aggraver les choses. Et je ne veux pas aggraver les choses. Je ne veux pas aggraver les choses. C'est non. C'est tout ce que j'ai. Ce non-là. Niveau 1. Et soudain. Après que je me sois éloigné de M... éloigné du Perrier qu'elle buvait, éloigné de la touillette qu'elle touillait et du papier du morceau de sucre que j'avais roulé et déroulé et finalement abandonné dans le cendrier, éloigné de la table où nous étions assis, du café qui avait si souvent été le nôtre, du soleil qui éclaboussait la rue. Alors que j'avais tourné le coin de la rue, puis une autre, encore une autre, et désormais hors de sa vue, loin j'étais, désormais de plus en plus petit, point minuscule dans la vie, oui, soudain. 10 ans. Ces deux mots, dans ma tête, qui explosent dans ma tête. 10 ans. Ces deux mots-là. 10 ans. Prononcé d'une voix forte, puissante, énorme, de stentor, comme on dit, comme on aboie un ordre, comme on tranche dans le vif, comme un juge abat son marteau. 10 ans. Avec un point d'exclamation. Sans que j'y sois pour rien. Car ce n'est pas moi, dans ma tête. Ce n'est pas ma voix. Je le saurai. Je le jure. D'où cette voix? Vient d'où? Sort d'où? Voix de qui? Je n'ai pas rêvé. Je sais que je n'ai pas rêvé. Ce n'est pas mon imagination. Ce n'était pas ma voix. C'est difficile à expliquer. Je sais ce que tu vas dire. J'ai donné assez de preuves de... Enfin, bref, je m'en fiche. Je sais ce que j'ai entendu. Je sais que la voix ne venait pas de moi. Elle venait d'ailleurs à l'intérieur de moi. Elle venait de... Non. Elle ne venait ni d'en haut, ni d'en bas, ni d'aucune direction. Elle a surgi de nulle part. Elle s'est simplement manifestée dans ma tête, a explosé tout à coup en dedans de moi, a ordonné ce qu'elle avait à ordonner et s'est tue. C'est tout ce que je peux dire. 10 ans. 10 ans de prison. 10 ans de malheur. Qui décide en nous de notre peine? Qui fixe la durée de notre chagrin? Qui nous condamne? En vertu de quoi? Selon quels critères? Pourquoi 10 ans? Pourquoi pas 2 ans? C'était bien 2 ans. C'était largement suffisant. Alors que 10 ans? 10 ans. Je n'en demandais pas tant. Quel crime peut valoir une peine de 10 ans? M comme crime? M comme condamnation? M comme dépression? À partir de maintenant? Et pour les 10 années à venir? Ok. Dans le mot dépression, il y a le mot désespoir, il y a le mot prison et le mot poésie, il y a le verbe se pendre et les mots désir et espoir. Il y a le mot dossier. Ok. En attendant, j'avais 10 ans à tirer.
Vous venez d'entendre le dossier M, livre 1, écrit et adapté pour la radio par Grégoire Bouillet, lu par Laurent Poitrenaud, enregistré en public à la Maison de la Poésie le 10 février 2018. Équipe de réalisation, Christophe Michou, Emmanuel Armingue, Laure-Hélène Planchet, Sophie Haute-Picon. Merci à Thomas Hamon, Valentin Ventura et aux équipes de la Maison de la Poésie. Le dossier M, livre 1 et 2, est publié aux éditions Flammarion.